Bonjour à tous, bienvenue sur lescoursjulien.com pour une nouvelle analyse linéaire à écouter. Aujourd'hui, l'analyse linéaire, l'étude linéaire d'un passage de Tristan et Iseult, le passage du Morolt, dans le chapitre 2, le Morolt d'Irlande. Le texte débute par cette phrase. Aujourd'hui, Tristan se plaça sur une courte pointe de sandales vermeilles et se fit armer pour la haute aventure. Il termine par cette phrase. Tristan parvint au château, il s'affaissa entre les bras du roi Marc et le sang ruisselait de ses blessures. Je ne vais pas lire le texte car il est un peu long. Passons à l'analyse linéaire. Alors, en introduction. À l'époque des romans courtois, un écrit se détache par la passion dévorante et adultérine de deux amants, Tristan et Iseult. Ce mythe d'ailleurs en inspira un autre, celui de la relation entre Guenièvre, la femme d'Arthur, et Lancelot, un chevalier de la table ronde. Tiré d'une légende celtique, peut-être aux alentours du 9e siècle, le texte se fixe à l'écrit au 12e siècle, notamment dans la version la plus complète, celle du Normand Béroul. Le récit compte les exploits guerriers de Tristan, dont les blessures ne peuvent être guéries que par Iseult, par inadvertance, alors qu'Iseult est promise à Marc, suzerain de Tristan. Ils boivent tous les deux un filtre d'amour. Commence alors une relation adultère, dont la fin est tragique, puisque Tristan meurt après avoir été une nouvelle fois blessé, croyant être abandonné par Iseult. L'extrait étudié se situe au début de l'histoire, au chapitre 2. Tristan, afin de délivrer le royaume de Cornouailles du paiement d'un tribut au royaume d'Irlande, doit combattre le champion des Irlandais, l'impressionnant Morolt. Comment le duel est-il mis en scène dans ce texte? Trois mouvements composent cet extrait. Tout d'abord, nous suivrons le départ de Tristan dans le premier paragraphe, de « Aujourd'hui » à chétif pâture. Puis nous nous attarderons sur le duel et son suspense. De Tristan monta seul, à devant leur tente riait. Enfin, nous analyserons de quelle manière se passe le retour du héros. De « Enfin vers l'heure de nonne » jusqu'à « Ruisselet de ses blessures », la fin du texte. Alors, le premier mouvement, de « Aujourd'hui à chétif pâture », qui est le départ de Tristan. Le premier paragraphe met en scène de manière théâtrale le départ du héros vers le duel. Déjà, sa position unique se remarque car il est le seul à être nommé, Tristan. Les autres personnages n'ont pas de nom. Ce sont des groupes, les barons ou ceux de la gente menue, c'est-à-dire le peuple. Ensuite, sa préparation possède un caractère de cérémonie. Se plaça sur une courte pointe de sandales vermeilles, c'est-à-dire sur une couverture de soie rouge. Dès le début du texte, nous remarquons le registre épique, héroïque, à travers l'expression « haute aventure » ou du champ lexical militaire. Armée, le haubert et le haume d'acier, cette bataille. Nous sommes face à la figure de chevalier, brave, preux, chrétien. On le voit avec les cloches sonnent. Il se détache par son caractère exceptionnel des autres nobles dans le parallélisme antithétique, les barons pleuraient de pitié sur le preux et de honte sur eux-mêmes. L'éloge hyperbolique du héros se remarque encore dans le discours direct des barons. Hardi baron, belle jeunesse, ma mort jetterait un moindre deuil sur cette terre. Et dans l'énumération, vieillards, enfants et femmes. Tristan est le héros de tous, de la noblesse et du peuple et de tous les âges. Le présent de vérité générale de la dernière phrase, l'espérance au cœur des hommes vide de chétif pâture, apporte un caractère solennel à la démarche de Tristan. Sa victoire serait un miracle. Ce premier mouvement traduit le caractère héroïque de Tristan et épique de sa démarche. Il apparaît comme un chevalier brave et extraordinaire. Le deuxième mouvement, de Tristan monta seul à devant leur tente riait, montre le duel et son incertitude. La première phrase du deuxième paragraphe insiste sur la nouvelle solitude du héros qui était auparavant très entouré. Tristan monta seul dans une barque. Notons une référence au personnage biblique bien connu pour sa force, Samson, puisque l'île est l'île de Saint Samson. Vous savez, c'est celui qui avait sa force dans sa chevelure. La seconde phrase débute par la conjonction de coordination « mais », afin de donner l'impression que Tristan est déjà dans une position défavorable. Et le premier, il aborda dans l'île. La couleur pourpre de la voile du Morolt peut faire référence évidemment au sang ou un caractère royal impérial. Il est le frère du roi d'Irlande tout de même. La phrase suivante marque l'opposition du style entre les deux combattants puisque Tristan repousse sa barque. L'explication nous est donnée avec le passage au discours direct qui suit. Les deux usent du mot vassal pour s'interpeller afin de bien poser la supériorité de leur royaume sur le royaume adverse. Cette répétition par Tristan montre son refus d'accepter le tribut payé au royaume d'Irlande. Il provoque encore le Morolt. Une seule barque ne suffit-elle pas? Cette question rhétorique suppose un duel à mort. Il n'y en a qu'un qui reviendra. Le discours direct apporte de la vivacité et de l'authenticité au récit. Le lecteur a l'impression d'être un témoin de la scène. Puis le combat échappe à la vision, s'enfoncèrent dans l'île. Les spectateurs, les personnes restées sur le rivage, les lecteurs, ne sont plus au courant de l'action. Le son reste le seul élément. Nul ne vit l'âpre bataille, mais par trois fois il sembla que la brise de mer portait au rivage un cri furieux. L'invisibilité du combat porte le suspense à son comble. Une scène vide s'offre au regard des spectateurs. L'antithèse suivante entre les femmes en deuil et les partisans du Morolt joyeux évoque bien l'attente de l'issue. À noter que la pureté des femmes s'oppose, évidemment, à la cruauté des hommes. Ainsi, nous lisons « Alors, en signe de deuil, les femmes battaient leurs paumes en cœur et les compagnons du Morolt massaient l'écart devant leur tente, riaient. Ils apparaissent comme des monstres, évidemment. » Le combat n'est donc pas décrit. Les spectateurs du rivage restent sans information. Le duel ne concerne que les deux protagonistes. Le troisième mouvement s'étire de enfin vers l'Ordonnon, à le sang ruisselait de ses blessures, donc la fin du texte. C'est le retour du héros. L'Ordonnon désigne dans la liturgie chrétienne le milieu de l'après-midi. Le combat a donc duré plusieurs heures. Le suspense s'étire puisque la voile du Morolt est en vue, la voile de pourpre, et la peur prend les partisans de Tristan. Une clameur de détresse retentit. Seulement, la conjonction de coordination mais indique que l'issue fatale n'est pas celle qui se produit. Le tragique ne l'emporte pas, avec encore le registre épique qui surgit. Elle montra un chevalier qui se dressait à la proue. C'était Tristan. L'attente de la résolution du conflit met en perspective la victoire du héros. Suivent des hyperboles épiques pour montrer la vaillance et la bravoure du courageux chevalier. 20 barques viennent à son rencontre. Les jeunes hommes se jetaient à la nage, les mères à genoux. Toute la foule le loue et le prie. La figure héroïque est à son paroxysme quand il prend la parole pour rendre hommage à son adversaire défait. « Le Morolt a bien combattu, » dit-il. Et ensuite rappeler sa force ainsi que les dépendances nouvelles de la Cornouaille. « Emportez ce morceau d'acier, seigneur, c'est le tribut de la Cornouaille. » Il s'exprime bien, il sait comment parler à la foule. Le dernier paragraphe rend compte du triomphe de la marche du héros vers le château au relais de sa gloire, avec l'importance et l'abondance des sonorités. À grands cris, chants d'allégresse au bruit des cloches, des trompes et des bucines si retentissants qu'on n'eût pas ouï Dieu tonner. Cette énumération hyperbolique participe à la figure héroïque et épique de Tristan. C'est vraiment le héros du jour et du moment. Seulement, le passage termine sur un moment pathétique. Il s'affaissa entre les bras du roi Marc et le sang ruisselait de ses blessures. Il avait réussi à marquer sa souffrance physique tout en ne ressentant aucune souffrance morale. Le héros ressemble à un martyr chrétien. La figure du chevalier Tristan est celle de David qui a vaincu Goliath, qui, adulé de son peuple, lui cache ses blessures presque christiques, qui restent honorables jusqu'au bout. Alors, ce passage épique débute avec la préparation et le départ de Tristan pour le combat. Harnaché, plein, adoré, il va vers une mort presque certaine. L'étape suivante, celle du combat, est elliptique. On ne sait rien du duel. Les spectateurs de la première scène sont aveugles et n'entendent simplement que les cris des deux duellistes. Enfin, le retour du vainqueur laisse place à l'incertitude. Finalement, le héros Tristan revient. L'éloge du chevalier resplendit encore jusqu'à son effondrement qui n'est pas vu par les spectateurs. La figure épique et héroïque de Tristan est mise en avant de manière hyperbolique, biblique. L'originalité du texte tient en sa mise en scène théâtrale. La préparation et le retour du chevalier sont décrits minutieusement pendant que le combat est éclipsé. Ce qui compte, c'est le héros et son comportement et non le fracas des armes. Cet extrait rapproche Tristan et Isolde du genre de la geste, comme la chanson de Roland. Seulement, plus tard dans l'œuvre, le passage du filtre d'amour renvoie au sentiment et rapproche l'œuvre du roman courtois, bien que l'amour soit adultérin. Je vous remercie pour votre écoute une nouvelle fois et vous dis à bientôt sur lescoursjulien.com. Au revoir.